On continue notre étude sur « Soyez rafraîchis », parce que c'est toujours basé sur les actes. Le Seigneur veut répandre ses rafraîchissements. Quand on voit ce passage-là, moi je vois que comment est-ce que Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir dans Actes 3, 19 et 20. Il dit de se repentir, de se convertir, pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir. S'il n'avait pas l'intention de nous bénir, il n'aurait pas dit ça, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Puis c'est ces rafraîchissements-là qu'on va atteindre, rentrer dans les rafraîchissements de Dieu, être béni par la part, de la part de Dieu pour recevoir ce qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours. Sauf que faut apprendre qu'on doit se débarrasser de ce qui le retient de le faire. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui met un blocage à la bénédiction. On a parlé de plusieurs points de la bénédiction, puis on est rentré dans des études qui parlent de qu'est-ce qu'il faut enlever pour recevoir ces bénédictions. Si on veut être béni de sa part, si on veut que Dieu nous regarde puis soit fier de nous, ses regards sur nous puis prêt à exaucer nos prières dès qu'on ouvre la bouche, ça prend quelqu'un qui devient un peu, pas qu'un peu. Notre but, c'est de devenir comme Jésus. Jésus, il est exaucé dans tout ce qu'il a demandé à son Père. Il le dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il était toujours d'une façon de vivre qui plaisait à son Père. Puis nous, on n'est pas toujours comme lui. C'est le but à viser, mais quand on n'est pas comme lui, on met un blocage, veux pas. On met un blocage, ça l'empêche Dieu de nous bénir. Puis on veut regarder cela dans le but qu'on rentre dans ses bénédictions. Ces rafraîchissements qu'il nous a promis. Le message de Dieu, c'est ce qu'on sache qu'on peut être libéré de toute impureté dans nos vies. C'est le message de Dieu. Parce que dès le départ, en venant à Jésus, t'es pardonné. T'es pardonné. Tu commences une nouvelle vie à zéro, comme si tu n'aurais jamais fait de péché. Puis là, tu commences ta nouvelle vie, puis tout le long, on retombe dans des impuretés. Parce que là, c'est le sujet qu'on va regarder aujourd'hui. Soyez rafraîchis par la délivrance des impuretés. Les choses impures qui peuvent nous salir pendant notre marche chrétienne. Dans Luc 4, 18, c'est toujours là-dessus comment pour savoir se baser qu'on peut être délivré de ce qui nous salit, de ce qui nous souille. Il dit que Jésus avait l'Esprit de Dieu sur lui, puis il avait une mission, il avait l'onction, puis le point qu'on veut regarder ensemble, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Peu importe dans quoi qu'on est lié, qu'on est enfermé, qu'on est enchaîné, qu'on est pogné dans notre vie chrétienne, peu importe quel péché qui nous rend esclaves, on n'est pas capable d'en sortir, peu importe lequel. On doit savoir qu'on peut aller à Jésus, puis il peut nous délivrer de n'importe quel péché. Je parle pas juste de nous pardonner, non, de nous délivrer, nous rendre libres, pour que ce péché-là soit plus là. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand il proclame aux captifs la délivrance, il ne va pas juste dire à celui qui est captif, mettons c'est un esclave, « Ah, t'es rendu libre, mais t'es encore enchaîné. » C'est pas juste le dire, c'est que quand il dit « Tu es maintenant un homme libre. » Il signe le papier, t'es un libre, en plus, la chaîne est cassée, puis va-t'en, go, t'es libre, t'es plus besoin d'être enchaîné là. Jésus nous rend libres de nos chaînes et de nos liens. Il a le pouvoir de nous délivrer, peu importe dans quoi que t'es pogné. Si on pense qu'il peut pas, mais on est en train de limiter la puissance de Dieu, puis on est en train de dire que la Bible est menteur. Parce que la Bible le confirme en plus qu'un passage que Jésus est plus puissant que le diable, puis il peut briser toutes les chaînes. Puis il est plus puissant que notre chair, puis il est plus puissant que le monde. Il a vaincu le monde, puis il peut, par l'Esprit de Dieu, faire mourir les actions de notre corps. Il peut nous rendre libres. Quand il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. » Quand tu es rendu libre, tu n'as plus ce problème-là. Puis c'est dans cela que Dieu veut nous sortir. dans un, on peut les nommer, remplacer n'importe quel péché par un autre nom d'un autre péché. Il peut nous rendre libres de n'importe quel péché. Ça, il faut y croire, frères et sœurs, parce que des fois, on est pogné dans une affaire, puis on cherche des moyens humains pour sortir de nos affaires. C'est pas parmi les hommes qu'il faut aller pour être libéré, c'est d'aller à Jésus. C'est lui qui a l'onction, qui a la puissance, qui a l'autorité de rendre libres les captifs. Il proclame, sois libre, t'es tombé libre, parce que sa puissance, elle agit. Puis, je pourrais vous raconter de mes témoignages que j'ai eu des libertés, puis des témoignages aussi que je me suis rendu esclave une autre fois de certaines affaires qui fait que j'ai redemandé encore des libertés, puis il les donne. Il rend libre de n'importe quoi qu'on peut lui demander. Puis il nous appelle à y aller à lui. C'est un verset-là, il nous dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui va déverser ces rafraîchissements. Amen. Amen. Savez-vous que Dieu voit les liens dans chaque personne, même si les gens ne les voient pas, leurs liens? Des fois, on est enchaîné, on est esclave, on est attaché après des affaires, que ce soit des péchés, que ce soit des mauvaises habitudes, ça peut être des consommations, des problèmes de consommation. Aujourd'hui, je ne parle pas nécessairement d'un point plus en particulier. Mais même si on ne s'en rend pas compte qu'on est lié, Dieu voit nos liens et nos chaînes. Il les voit toutes. Des fois, on peut en avoir plus qu'une chaîne qui nous tient captifs dans quelque chose dans ce monde. Il les voit, puis il essaie d'une manière puis d'un autre d'essayer de nous le dire, de nous rendre conscients de notre lien ou de notre chaîne ou de notre mauvaise manière de penser, de parler, d'agir. Tout là, ce qui marche pas selon Dieu, il essaie de nous rendre de nous faire prendre conscience pour qu'on s'arrête pour dire ouais. Pis on l'avoue, bien sûr, faut l'avouer. Si on dit non, moi ça, c'est pas pour moi. Oh, c'est pas moi. Mais en réalité, ça, lui, il voue. Puis là, il veut qu'on se tourne vers lui pour qu'on lui demande ce qu'au moins, Seigneur, puis il va le faire. Il est voué tout, puis il est prêt à nous rendre libres. Il y a un exemple de ça qu'on voit dans la Bible, dans Actes 8, 22 à 24, c'est-à-dire Philippe qui rentre dans une ville, plein de monde se convertit, le monde se font baptiser, Pierre il arrive là avec les autres apôtres pour imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est en action, les gens étaient sauvés, ils croyaient au Messie, puis ils acceptaient Jésus. Puis il y en a un là-dedans, c'est un gars qui était habitué de vivre une vie particulière. Lui, avant de se convertir à ce moment-là, lui c'est un gars qui aimait ça faire des spectacles devant les autres, des tours de magie. Il aimait ça faire des affaires, tout le monde l'élevait, tout le monde le félicitait. Il se faisait appeler la grande puissance de Dieu. Puis là, lui, par ses actes de magie, il étonnait les autres, puis ça attirait les foules à lui. Puis quand il a vu que le Saint-Esprit t'a répandu par l'imposition des mains aux apôtres, il a demandé aux apôtres, « Hey, je vais vous donner de l'argent, là, puis donnez-moi ce don-là à qui j'imposerai les mains aux gens, puis ils vont recevoir le Saint-Esprit, eux aussi. » Pierre s'est reviré de bord, puis il a dit, parce qu'il y a eu une révélation, quand Pierre il va y répondre, là, c'est parce qu'il y a eu la pensée de Dieu sur la situation de ce gars-là. Le fait qu'il parle comme ça, ce gars-là avait des liens dans sa vie, puis qu'il n'était pas encore délivré, puis aux yeux de Pierre, c'était même pas sûr qu'il était sauvé. Regardez bien comment ce que Pierre a répondu à ce gars-là qui voulait donner de l'argent pour avoir le Saint-Esprit, pour être capable de le donner aux autres. Dans Acte 8, à partir du verset 22, il dit, « Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Voyez-vous, les liens de l'iniquité, ça veut dire qu'il est encore lié par le péché, ce gars-là. Il n'a pas reçu sa délivrance. Puis là, il a dit de se repentir parce que là, c'est faut pour qu'il soit vraiment pardonné, parce que c'est un péché grave quand t'es pogné dans des liens de péché. Lui, il savait pas qu'il y avait des liens de péché. C'est ce que je vous disais tantôt. Tu peux avoir des liens de péché, puis même pas savoir que t'en as. Mais Dieu le sait. Puis là, Dieu le révèle à ses serviteurs, puis là, il va le dire, t'as un lien de péché dans ta vie. Repends-toi, là, pour que ça soit pardonné, s'il est possible. Parce que pour être pardonné, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu le confesses, il faut que tu l'avoues, puis il faut que tu le confesses. Pierre l'a vu qu'il était à ce gars-là, t'as pogné d'un lien d'iniquité, puis il a dit, puis là, ce gars-là a répondu, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Là, il était repentant. Il venait de comprendre. Puis c'est ça qui est le point que je veux en venir. Quand on peut vivre notre vie chrétienne, être lié par quelque chose, puis on le sait pas, mais Dieu le sait, mais Dieu veut délivrer. Puis il attend juste qu'on ait une attitude comme ce gars-là, puis d'être prêt à se l'avouer, puis à demander, « Priez pour moi, je veux m'en sortir. » Je veux pas que ça arrive. Je veux pas que périr, parce qu'il a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. C'est ça que ça dit l'autre verset avant. Puis, là, vu qu'il a cru ça, il était lié par l'argent. Mais il a avoué, il a demandé des prières pour être délivré de ce lien-là. C'est là-dedans que le Seigneur veut nous amener. Quand on réalise qu'on a un péché dans notre vie, pas se cacher la tête dans le sable, c'est de l'avouer puis demander de l'aide à Dieu. Puis des fois, tu demandes de l'aide aux autres pour prier dans ta vie, pour être délivré, pardonné, puis qu'il n'arrive pas de périr à cause qu'il est encore lié. Jésus veut briser tous nos liens. Comme je disais tantôt, il sait qu'on a des liens. Sauf, lui, il veut nous en sortir. Il veut les briser, toute la gang. Mais il faut les connaître, puis aujourd'hui, on va parler de l'impureté. Vous savez comment est-ce que le royaume terrestre est mené par le diable et ses démons? On en a parlé à plusieurs reprises, comment est-ce que le diable règne sur le monde entier? La Bible le dit, pas juste dans un passage, puis l'esprit de rébellion, là, l'esprit qui agit dans les fils de rébellion, il domine le monde. Le diable et ses démons mènent le monde. Puis il y a un passage qui nous parle dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, que Babylone la Grande, c'est un repère d'esprits impurs. Dans Apocalypse 18, verset 2, l'ange a crié d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Au Dieu, c'est détesté, des oiseaux impurs et détestés. Mais il dit que Babylone est devenue un repère d'esprits impurs. Quand on parle d'esprits impurs, on parle pas du Saint-Esprit, on parle complètement le contraire, des esprits sales. Parce que le mot que là, c'est des esprits impropres, sales, souillés, des esprits sans morale, sont impurs en pensée puis en action dans tout ce qu'ils font, ces esprits-là. C'est des esprits du mal qui remplit Babylone, la grande. Mais il faut pas penser que quand ça va arriver, là, que ces esprits-là, ils sont là juste à ce moment-là dans sa planète. Parce que les esprits, ils se multiplient pas, là. Il y a la même quantité d'esprits aujourd'hui, même si on voit pas Babylone, la grande, dans de nos yeux, là, tu sais. Ce que je veux en venir, c'est que dans le monde présent, tous ces esprits-là sont là partout, des esprits impurs qui travaillent à rendre les gens impurs. Ces esprits impurs-là mènent le monde entier, puis poussent les gens pas juste à se rebeller. Se rebeller contre Dieu, c'est une chose, mais en plus que tout le monde se souille. Tout le monde se rend impur dans la communion de ces démons-là impurs qui mènent la vie de ces gens-là. Puis là, on est à là-dedans, nous aussi, nés par le diable dans ses impuretés. Puis on a eu plein la tête des impuretés, puis on a eu plein dans la bouche, puis on a eu plein dans nos actions avant d'être chrétiens. Puis c'est pas quelque chose à se vanter du tout de nos exploits de péché. C'est une honte, c'est sale devant Dieu. C'est ça qui nous emmena dans l'étang de feu, tous nos péchés, nos crimes. C'est ça aussi que crucifier Jésus. Les gens qui sont en contact avec les esprits impurs sont rendus impurs ou souillés aux yeux de Dieu. Quand on parle d'impurs, c'est des souillés, des sales. Puis c'est ça, en fin de compte, que je l'ai déjà mentionné. Quand on va vouloir rentrer l'autre bord, notre âme est souillée par nos péchés, tout sale. C'est ça qui fait qu'il nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, que lui, Dieu, il est saint, il est pur. Nos péchés, nos souillures, nos saletés qu'on a sur notre âme nous empêchent d'entrer dans la présence du Dieu saint dans les lieux célestes. Faut pas penser qu'on va pouvoir rentrer dans le ciel, dans le paradis, comme que tout le monde espère, là, sans avoir passé par la purification. C'est impossible. Faut passer par la purification, puis c'est pour ça que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Gloire à Dieu qu'on a cela, sinon ça aurait été impossible, comme dans la loi de Moïse, chaque fois qu'on en aurait fait un, d'aller offrir un sacrifice, on serait tous ruinés à la quantité de péché qu'on a fait. On n'aurait pas une scène, on serait tous ruinés, puis on devrait une dette incroyable aux vendeurs de bœuf, puis aux vendeurs de brebis, puis d'oiseaux, puis tout le kit pour l'offrir en sacrifice. Ça aurait été impossible de se purifier entièrement de tout ce qu'on a fait de mal, sauf grâce au sang de Jésus. Les esprits impurs, ils rendent le monde impur, puis souillés aux yeux de Dieu, qui fait que le mur s'épaissit entre Dieu et les hommes, parce que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Plus t'en ajoutes, puis plus le mur est épais. Les esprits impurs, quand ils mènent quelqu'un, là, il y en a qui sont menés puis saisis par ces esprits-là, encore plus pires que d'autres personnes, là. Il y en a, là, qui ont été saisis par ces esprits impurs-là. Ça peut même entraîner une personne dans l'aveuglement puis dans la démence. Dans l'aveuglement, dans le sens que le gars sait plus ce qu'il est en train de faire. C'est rendu qu'il fait que des choses impures, puis il comprend même pas ce qui se passe dans sa vie, puis il est plus capable de se contrôler, parce que ces esprits-là le dominent. Dans Marc, chapitre 5, le verset 2, à partir du verset 2, Jésus a rencontré un homme possédé par un esprit impur. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres. Les sépulcres, c'est quoi? C'est des cimetières. Des tombeaux. Fait que déjà en partant, ce gars-là vivait plus d'une vie normale. Il était aveuglé, puis il souffrait comme de la démence. Il savait plus qu'est-ce qu'il faisait, puis il criait, puis il se meurtrissait avec des roches, avec des pierres, puis il se frappait. Ça, c'est de l'automutilation. Il y en a qui font ça encore aujourd'hui, puis ils savent pas pourquoi. Mais ils sont menés pour faire des choses, ils se tiennent dans un tombeau, parmi les squelettes, parmi la mort, ils se tiennent dans les choses qui représentent la mort, puis ils vivent d'une manière qui est complètement marginale, complètement différente que l'ensemble du reste du monde qui se maintiennent dans une vie normale. Ce gars-là, ça dit qu'il est sorti des sépulcres, est possédé d'un esprit impur. Si on lit l'histoire, il y en avait une légion de démons en dedans de lui. Fait que quand t'en as, plus t'en as, plus que ta vie va être tourmentée puis déséquilibrée mentalement puis physiquement. Cet homme-là, il avait sa demeure dans les sépulcres, puis personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il a eu les fers aux pieds, puis il était lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, puis personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Là, on voit un état grave. Ça, c'est quasiment dans les pires cas de possession qu'on voit dans la Bible. Il y en a, ça arrive à quelques reprises qu'on voit des cas de possession. Mais celle-là, c'est un grave. Mais vous pouvez regarder l'histoire de Saül aussi, quand il y a un esprit. Quand il était rejeté par Dieu de son appel à être un roi, le roi d'Israël, il n'a pas juste pris une débarque ce côté-là, il était séparé d'avec Dieu. Dieu ne voulait plus y parler. Puis en plus de ça, il y avait un esprit mauvais envoyé par l'Éternel pour le tourmenter. Chaque fois que l'esprit mauvais venait sur lui, il venait tout croche, puis ça allait mal, puis il y a eu même des passes qui voulaient tuer David. Mais là, il demandait à David d'y aller, lui il marchait rempli du Saint-Esprit, puis il louait le Seigneur avec son instrument de musique, puis il allait là, puis il faisait sa musique devant le roi quand il était en crise, puis là, ça le soulageait, le roi. La présence de Dieu, puis la paix de Dieu, tout ce qu'on retrouve de bénéfique dans la louange du Seigneur, mais ça le délivrait, ça le soulageait. Il n'était pas complètement délivré parce qu'il était complètement rejeté de Dieu pour ses péchés. Tout ça pour dire que dans les possessions ou dans les tourments que les démons font, ces esprits un peu-là, ça travaille la vie des gens, puis ça les rend inconfortables. Ils sont pas dans la paix, puis ils vivent toutes sortes d'oppressions puis d'attaques venant de ces esprits-là. Un état d'esprit vraiment déséquilibré. Puis quand Jésus a délivré cet homme possédé-là, mais ça l'a ramené dans son bon sens. Même si on y aurait donné des calmants, même si on y aurait donné des pilules, parce qu'il paye le monde dans ce temps-là, il ne soignait pas réellement beaucoup avec des pilules. Aujourd'hui, il y aurait donné des pilules pour essayer de soulager la personne, pour qu'elle se sente stable, pour qu'elle ne se sente plus ce qu'elle ressent. Mais Jésus, lui, c'est pas des soulagements comme cela qu'il fait. Il délivre, il brise les chaînes, puis il chasse le démon qu'il y a dans la personne. C'est ce qu'il a fait. Puis dans Marc 5, 15, juste quelques versets plus loin, quand il était délivré, ça dit, les gens vinrent auprès de Jésus, puis virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, puis ils furent saisis de frayeur. Parce que là, ils ont vu la puissance de Dieu, puis ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils ont vu que ce démoniaque-là, il a été délivré, puis il était rendu complètement normal. Quand on joue avec les esprits un peu, l'histoire ne nous dit pas comment est-ce que ça a rentré dans sa vie, mais quand on joue avec les esprits un peu, qu'on fraternise avec eux autres, puis qu'on participe à leurs affaires, c'est sûr qu'on en devient contaminé. La Bible, elle dit, ne donnez pas accès au diable. Fait que, un chrétien est appelé à combattre ces esprits-là. À amener la délivrance puis la guérison à ces gens-là qui subissent ces choses-là. Ce qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est quoi le rapport avec les chrétiens? Pourquoi qu'on parle de cela dans la Bible, de la gravité des choses qui se passent avec les esprits impurs, puis nous aujourd'hui qui sommes chrétiens puis qui veut marcher avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs domaines dans la vie chrétienne, plusieurs endroits, plusieurs façons, qu'un chrétien peut être souillé par des esprits impurs. Puis que nous-mêmes, on va vivre dans des choses impures, à cause ces esprits-là nous influencent, agissent sur nous. Je dis pas qu'on va être possédé comme ce gars-là, mais je dis pas que ça peut pas arriver non plus. Mais je sais que si on fraternise et on joue avec ces esprits-là, on va en être contaminé. Si on les laisse faire, on va en avoir la tête remplie, la bouche remplie, puis les actions vont être aussi dans la même lignée que ces esprits-là sont joués avec ça. La première façon qu'il faut examiner, je le demande comme si c'est une question. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui marchent dans des impuretés, des esprits impurs et de notre chair? Parce que notre chair aussi, elle a des désirs impurs. Fait qu'il y a des chrétiens qui marchent dans des impuretés, des esprits impurs. Ça veut dire qu'il y a des esprits impurs chaudent des idées puis que les chrétiens embarquent là-dedans. Quand le diable a tenté Jésus, surtout, il donne trois sujets. Puis ça dit, après ça, le diable laissa jusqu'à un moment favorable. C'est pas les trois seuls sujets de tentation que Jésus a eu. Dans un autre passage, ça dit qu'il était tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'il les a toutes subies, ces attaques-là, Jésus, des attaques des esprits impurs. Sauf qu'il a toujours eu la victoire sur ces suggestions démoniaques. Mais c'est quand que les chrétiens entendent ces choses-là, est-ce qu'on résiste à toutes les fois? Non. Est-ce qu'on est embarqué dans des choses que les suggestions sataniques? Oui. Est-ce qu'on a eu de l'impureté dans nos pensées? Oui. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui marchent dans les impuretés des esprits impurs puis les impuretés de notre chair sans qu'on y prenne garde? Entretenant des pensées impures puis des paroles impures. Dans Éphésiens 5, le verset 3 à 5, on a une exhortation de l'apôtre Paul là-dedans qui nous dit que l'impudicité, là on parle d'impudicité, si on parle de toutes sortes de, toutes formes de sexe en dehors du mariage, que l'impudicité, là, aucune espèce d'impureté. Ça veut dire que là, il est en train de désigner qu'il y a des impuretés qui peut-être dans la tête ou dans la bouche des chrétiens, là. Puis l'impureté, on parle d'esprit impur, des pensées impures. C'est tout lié, ça, là. Faut pas penser que j'ai tout le temps des esprits, des pensées impures, puis qu'il n'y a aucun esprit impur qui me parle, là. Quand on est attiré par ça, croyez-moi, ils sont toujours à côté puis en train d'en redire d'autres. Parce que si on a ça comme faiblesse de se laisser entrer dans les impuretés ou dans les choses sexuelles, qui est le premier point, puis on a ça dans la tête, puis on pense à ça à journée longue, puis là, pensez-vous que ça, le diable ne vous en mettra pas des pensées un peu? Fait que ça nous dit que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité, c'est l'amour des biens puis de l'argent, ne soit même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ça devrait même pas être dans notre bouche des choses sexuelles, des choses impures, puis des choses de parler d'amour d'argent ou de l'amour des biens. Un chrétien doit pas être dans cela, parce que il faut pas que ça soit nommé en tant que chrétien, mais il faut pas que tu y penses non plus. Ça veut dire que Dieu veut qu'on fasse le ménage des impuretés, des impudicités, puis des cupidités. Il veut qu'on fasse le ménage de nos pensées pour tout enlever ça. Sinon, on rouvre la porte aux esprits impurs, puis de venir agir, puis nous en dire, puis nous faire courir là-dedans. Il y a des chrétiens qui sont pris avec la pornographie. Il y a des chrétiens qui vont voir des prostituées. Il y a des chrétiens qui pensent à toutes sortes de souilleux de la chair, puis de toutes les choses qu'on pourrait faire, puis ce qui se passe dans le monde. Puis c'est comme s'ils veulent cela, mais ils s'en rendent pas compte que leur pensée est menée par un esprit impur. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à combattre. Le Seigneur veut nous donner la victoire sur toute impureté. Pour qu'on ait la victoire, c'est qu'on arrive à vivre nos vies sans penser à ces affaires-là. C'est ça la victoire. Puis tu as encore moins de les dire. Non, c'est pas qu'un autre passage va nous dire que dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'ils soient des choses pures, honorables, vertueuses, dignes de louange, qui méritent l'approbation, soient l'objet de vos pensées. Ça veut dire que si tout le monde entendrait ce que je pense, il faudrait que tout le monde soit d'accord, dans le sens pas d'accord aux idées, mais d'accord, ou dise amen. Il faudrait que toutes mes pensées soient quelque chose que si le monde les entende, que tout le monde dise oui, c'est des bonnes pensées. C'est de même qu'il faut être dans notre esprit. Donc, un chrétien peut pas se laisser aller à des fantasmes, à des idées de corruption, là. Puis il s'imagine d'être avec la voisine, puis toute la quitte, c'est du péché, c'est de l'impureté. Puis le Seigneur veut pas ça dans la vie des chrétiens. Entretenir des pensées impures, puis des paroles impures. Puis là, c'est des jokes sur le sexe, des jokes sur sortes d'affaires. Il dit même pas des plaisanteries dans le verset sur ces sujets-là, parce que c'est pas drôle. Dieu trouve pas ça drôle. Il dit c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de toutes ces impuretés-là. Quand le monde rit pour des choses un peu, là, Dieu rit pas. Dieu se détourne, se ferme les oreilles, se ferme les yeux, ne veut pas entendre ce qu'il y a là. Ça, il n'est pas capable de regarder les impuretés. Si on continue, dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Puis là, le verset 5, il est aussi un verset clé dans ce stuff-là. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, parce qu'on parle de l'impureté aujourd'hui, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ceux qui se livrent à cela n'entreront pas dans le royaume. On n'a pas le choix, frères et sœurs, de combattre cela, puis de rejeter cela. Parce que là, quand on laisse cela, puis qu'on en recherche en plus, parce que si on recherche des films là-dessus, puis on recherche toutes sortes d'affaires, bien, on est en train d'obéir au diable, plutôt que d'obéir à Dieu qui va te dire « change de poste ou étends tes vies ». Il ne faut pas se laisser aller là-dedans, c'est une question de salut. Parce qu'il nous dit clairement là-dedans qu'il n'y a pas personne d'impur qui a d'héritage. Puis il dit que ça soit même pas dans vos paroles ni dans vos pensées. C'est ça qui est le point. Jésus avait réprimandé les pharisiens en disant qu'ils étaient remplis de pensées impures. Parce que les pharisiens, ils paraissaient beaux dehors, ils avaient l'extérieur de leur vie pour se montrer qu'ils étaient bien bons, bien fins. L'extérieur, l'apparence, ce qui paraît, mais en dedans, qu'est-ce qui se passe en dedans? Jésus lui a dit dans Matthieu 23, le verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Un sépulcre blanchi, c'est un sépulcre, mais il est blanchi. Tu prends de la chaux, puis tu le peintures tout blanc, ça a de l'air bien beau. La belle pierre tombale, tout est beau. Mais en dedans, là, tout ça, c'est rempli d'ossements de mort. Et au-dedans, c'est ce que Jésus dit, qui paraissent beaux dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est que les pharisiens, les religieux, font pas le ménage de leurs pensées. Les chrétiens, oui. Parce que si un chrétien fait pas le ménage dans ses pensées, dans son dedans, il paraît peut-être beau dehors, mais Jésus le traite d'hypocrite. Il traite ces gens-là des hypocrites. Cherche à être beau dehors, mais en dedans, il se laisse aller dans toutes sortes d'impuretés. Puis là, il dit, c'est comme si tu arrêtais un tombeau, arrêté peinture en blanc, il paraît bien beau, mais en dedans du tombeau, c'est plein d'ossements de morts. Des morts qui sont en décomposition, puis des os. Puis une autre chose qu'on doit savoir, c'est un peu. Dans l'Ancien Testament, un cadavre, c'était déclaré un peu. Si quelqu'un touchait un cadavre parce qu'il était au lieu d'aller enterrer son frère ou sa sœur ou un autre, il était un peu pendant une période de temps. Ça rendait impur un mort. Fait qu'un tombeau, quand tu parles d'un tombeau, c'est un lieu impur pour Dieu. Fait que celui qui était pris d'une légion de démons, lui, c'était son habitation, il habitait là. Pour lui, un esprit impur conduit le monde dans les impuretés. Fait qu'il vivait dans un tombeau. Puis un religieux qui ne fait pas le ménage dans sa pensée, Jésus l'appelle hypocrite parce que lui, il est plein d'ossements de mort dans sa tête. Ses impuretés sont des ossements de mort. Puis un chrétien ne doit pas se laisser aller dans cela. On doit faire le ménage, puis chasser, fermer des portes à tout ce qui pourrait être des souilleux de notre pensée. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit est là en dedans de nous. On ne peut pas penser que ça plaît au Saint-Esprit quand on se laisse aller à tous ces souilleux-là. Un chrétien doit apprendre qu'à combattre toute sa vie contre cela, à résister. Je dis pas que vous n'aurez plus jamais une pensée. Mais quand vous allez en avoir, c'est pas quelque chose que vous allez rechercher, c'est quelque chose que vous allez dire, non, j'en veux pas. Faut être en train de combattre, puis demander pardon. Comme le prophète Isaïe, comme je l'ai dit au début de la réunion, il a avoué qu'il vivait parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit lui-même s'est avoué comme un homme avec des lèvres impures. Puis c'est en l'avouant que Dieu pardonne, puis Dieu touche, puis Dieu purifie. Nous, on doit marcher dans purification. La purification, c'est le contraire des impuretés, voyez-vous. Fait que rechercher être pur, c'est dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements. On dira pas de conneries, des choses qui ont rapport à l'argent ou l'amour des biens la sexualité. C'est tous des sujets à bannir, puis toute forme d'impureté, toute espèce d'impureté. Parce que pour Dieu, c'est des ossements de mort. Le deuxième point, ce qu'on voit que quand on en parle un peu dans l'idée de pas penser au sexe, là, mais ça dit le deuxième point, les rapports sexuels non conformes à la parole de Dieu sont aussi déclarés impurs. Puis on voit ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 19, que des gens qui ont perdu tout sentiment puis se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, puis même jointe à la cupidité. Mais se livrer à la dissolution, le mot dissolution-là, c'est un dérèglement sexuel, l'impudicité, la luxure sans bride, la libertinage, l'impudence, l'insolence, les mœurs licencieuses, c'est tous des termes qui font partie de ce que ce mot-là veut dire, une débauche ou de la grossièreté. Mais il dit que les gens, là, ils ont perdu tout sentiment, des bons sentiments, pour se livrer à toutes sortes de dissolutions, qui sont des perversions devant Dieu, une corruption, une impureté. Puis ils commettent toute espèce d'impureté. Comme je vous disais tantôt, le monde entier est mené par des esprits impurs. Mais les chrétiens combattent les esprits impurs, résistent aux esprits impurs. Chasse les esprits impurs. Voyez-vous la grosse différence? C'est dans cela que Dieu veut nous amener, d'avoir une délivrance sur l'impureté, parce que l'impureté nous empêche d'obtenir les rafraîchissements de Dieu. Une autre manière qu'on voit dans la Bible, qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas toucher dans ce monde, parce qu'il y a des choses qui appartiennent réellement au diable. Parce que c'est le diable qui est là-dedans. Parce que tu as un lien direct avec le monde des ténèbres, puis si tu touches à ça, ça te rend impur automatiquement. Quand on parle d'astrologie, quand on parle d'occultisme, de spiritisme, de vaudou, de magie, de voyance, des sciences occultes, des consultations d'esprit ou de consulter les morts, c'est des choses qui sont déclarées déjà dans la parole de Dieu comme c'est des choses défendues par Dieu. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est des choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Ça appartient au diable, ces affaires-là. Ça appartient pas au Saint-Esprit. Puis c'est des choses que, vu que ça appartient au diable, ceux qui touchent à ces choses-là sont tombés souillés. Ça a l'air anodin parce qu'ils nous en mettent même dans le journal. Des horoscopes, ou ce que ça devient, ça, c'est des sciences occultes, ça. C'est pas des sciences poussées par le Saint-Esprit, c'est des sciences occultes. Le monde veut savoir leurs avenirs, ils vont voir des voyantes, ils vont se faire lire dans une tasse de thé, ou de toutes ces de lignes de la main, peu importe les sciences que vous allez voir, c'est pas d'aller consulter des gens remplis du Saint-Esprit, ça. Ça, c'est d'aller consulter ce qui appartient aux ténèbres, aux esprits impurs, aux sciences qui sont opposées à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était tout tué, ce monde-là. Aujourd'hui, on ne tue plus personne, mais il faut quand même résister et pas aller là-dedans parce qu'on est en train de souiller. Ces esprits un peu-là qui sont en arrière de ces faussetés-là rentrent dans tes pensées et te mettent des idées. Puis ça ne sera pas les idées du Saint-Esprit. Puis les chrétiens doivent faire attention à pas tomber dans ces pièges-là, parce que c'est des pièges du diable. Puis ça, quand je parle de tous ces domaines-là, l'astrologie, tout ça, ça inclut les religions. Les religions, ils sont menées par des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Les religions, c'est mené par les esprits impurs de ce monde. Dieu, il est venu puis a amené la vérité. par ses prophètes, par Jésus, puis il nous a laissé ça dans un livre, la vérité est là, tout le reste, c'est du mensonge. Tout le reste, c'est du péché qui vient d'esprits séducteurs puis des doctrines de démons. C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit. C'est écrit dans 1 Timothée 4:1. Il dit, on peut pas, comme il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Quand tu t'attaches à ça, c'est parce que tu as abandonné la sainte doctrine. Parce que si tu cours après la sainte doctrine, tu abandonnes les mensonges. Si la Bible t'intéresse, puis tu t'attaches à la Bible, à la vérité, tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans, tu veux rien savoir du reste. Tu n'as pas besoin de mentir pour grandir, tu as besoin de ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Le vrai vient de Dieu, les faux viennent des esprits séducteurs. Si tu t'informes sur les religions, puis t'embarques, puis tu participes, puis en plus, tu communiques avec eux autres, tu vas dans leurs réunions, tout ça, t'es souillé par des mensonges qu'ils vont dire, puis par le contact de l'esprit qui est là-dedans. T'es souillé par les esprits un peu. C'est une séduction, puis si tu es mordu par ça, là, tu vas avoir de la misère à retourner à Dieu, d'en rester que dans parole, parce que tes pensées vont être mêlées, puis tu sauras plus c'est quoi qui est vrai, parce que le mensonge envahit tes pensées, puis t'es rendu égaré. Les esprits purs n'amènent pas une augmentation de la foi dans la vérité. Au contraire, ils vont t'amener à croire que toutes les religions peuvent te sauver. Puis c'est archi faux. Tu peux pas être sauvé par aucune religion. Il y a juste Jésus qui sauve. C'est sa parole qui le guide pour le chemin. That's it. On n'a pas besoin de d'autres choses que cela. Ici, on n'est pas ici pour prêcher une religion. On est ici pour apprendre ce qui est écrit dans la Bible. Puis quand on écoute ça, puis on le reçoit, on reste dans ce qui est vrai. Parce que tous les versets qu'on regarde, on regarde pas des principes rajoutés par des religions disant qu'on va être sauvé par d'autres choses. Il n'y a aucune religion qui sauve. C'est toutes des pièges du diable pour emmener le monde dans les temps de feu. C'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Puis aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui laissent la vérité, puis sont prêts à abandonner la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs. Puis ils sont rendus communiques. Ils pensent que les catholiques sont sauvés, les musulmans sont sauvés, les hindouistes. Puis on va former une super religion ensemble, puis on va s'aimer, puis on va être tous sauvés. C'est pas vrai. Ça, c'est un des pires mensonges du diable. L'amour ne sauve pas. C'est pas l'amour qui sauve. Il y a plein de monde, plein d'amour qui s'en vont dans les temps de feu. C'est la foi dans le Messie qui sauve. Puis c'est de suivre sa parole qui nous garde dans son chemin. T'as beau dire que tu crois en Jésus, si tu marches pas dans son chemin, t'as pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est que tu t'es repenti, puis là, maintenant, tu veux suivre ce qu'il dit. C'est ça la foi qui sauve. Tu as la foi assez grande pour dire, je prends ce que Jésus dit, puis je marche avec ça à cette heure, c'est ça mon guide, c'est mon rocher sur lequel je m'appuie. C'est ce chemin-là qu'on veut. Le reste, les religions, c'est une séduction, c'est un piège du diable, c'est des doctrines. Des doctrines, c'est des enseignements de démons. Puis un chrétien peut pas être œcuménique. Parce qu'un vrai chrétien, c'est un suiveur du Christ. Si tu suis le Christ, tu peux pas suivre les religions en même temps. Sinon, tu n'as rien compris. La Bible, elle dit de même pas dire salut à quelqu'un qui t'amène à une autre doctrine. Puis il dit, même si un ange vient te dire une autre doctrine, il dit qu'il soit anathème. C'est même Paul, il dit même nous-mêmes, si on viendra amener une autre doctrine, qu'on soit anathème. Il n'y a rien d'autre qui compte que la parole de Dieu. La Bible, ce qu'on suit. Amen. Puis, on peut pas être œcuménique, ça veut dire en communion avec les autres religions, et demeurer un chrétien saint. C'est impossible. Tu peux pas marcher les deux en même temps, parce que quand tu es en communion dans ces temples-là, tu es en train de te devenir impur. Tu es en train d'être souillé par les démons qui sont là, puis en plus de te faire remplir de toute l'humanité. « Nous ne devons pas toucher à ce qui est manifesté appartenant aux ténèbres. Sinon, on embarque dans les impuretés du diable. Ce qui est pur, c'est la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est de même qu'on se rend pur. Le reste, ce qui est faux, ça rend impur. Si on se dirige là-dedans, on se rend impur, puis on est en contact avec ces esprits-là, comme ça disait dans Timothée, on se trouve à abandonner la foi pour s'attacher. Tu peux pas dire que tu as un attachement avec les religions, c'est impossible. Si tu as ça, tu as abandonné la foi, c'est ça qui est écrit. Tu peux pas courir ces deux plans puis penser que tu es encore dans la vérité. Tu es rendu dans les ténèbres si tu es attaché au faux. Pour ça, faut prendre garde aux mensonges. Il y en a partout des mensonges. Dieu nous dit de sortir de là puis de pas toucher à cela quand tu es chrétien. Dans 2 Corinthiens 6, 16, ça dit « Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu puis les idoles? » Parce qu'un idole, là, c'est pas juste des statues, là. Parce que c'est vrai qu'un temple d'idole, c'est un temple où il y a des statues. Mais même s'il n'y aura pas de statue, si c'est affaire à quelqu'un qui est autre que Dieu le Père, le culte qui est là, c'est un idole. Que tu sois représenté par une image ou non, ça a pas de... c'est pas juste ça. C'est de parler à un faux Dieu. Si tu vas dans un temple d'hindou, puis lui, il prie soleil, l'autre prie la lune, puis l'autre prie les étoiles, puis tu t'en vas là, puis tu commences à faire ça, tu es en train de prier des idoles. C'est un temple d'idoles, même si tu n'as pas de statue devant tes yeux. Peu importe le culte à qui tu le rends. Si c'est pas à Dieu le Père dans le nom de Jésus, le Dieu de la Bible, mais t'es dans les idoles. Ça nous dit, quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu le dit. J'habiterai, c'est Dieu qui dit ça, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Ça, le temple du Dieu vivant, c'est du monde qui marche en communion avec le Dieu vivant, selon sa parole. Mais l'autre verset qui dit, verset 17, c'est pourquoi « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas à ce qui est impur. » C'est ça que je vous dis, les choses impures de ce monde, faut pas toucher à ça. Puis là, il dit, il va nous accueillir. Il parle à des chrétiens, là. Ça veut dire que si un chrétien flirte avec les idoles, flirte avec les temples de d'autres religions, mais il est en train de se faire souiller, il dit « touche pas à ce qui est impur », puis l'autre, il est deux pieds dans l'église, en train de chanter messe avec les autres, ou peu importe ce qu'il est en train de faire. Puis, il est en train de se rendre impur, puis Dieu, il est pas là avec lui, Dieu ne l'accueille pas, parce qu'il dit « sors de là si tu veux que je t'accueille », c'est ça que ça dit dans ce verset-là. « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, touche pas à ce qui est impur, et là, je vais vous accueillir ». Ça veut dire que pour que Dieu nous accueille, il faut que tu sois vraiment décollé de là. Il faut que tu arrêtes d'être impur. Si tu es encore dans l'impureté, peu importe la manière, Dieu n'est pas là avec toi. Puis il faut penser à cela. Un chrétien est appelé à la pureté. Dieu nous appelle à être saints, puis à marcher comme des saints. Dans 1 Thessaloniciens 4, 7, ça dit, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Marcher dans la sainteté, ça veut dire de se consacrer de plus en plus à Dieu qui est saint. Pour se consacrer, c'est toute notre vie qui devient de plus en plus conforme à ce que Dieu veut. C'est de même que tu es en train de te sanctifier, en demandant pardon, puis en fuyant les occasions de chute. En combattant contre le diable, contre les esprits impurs qui vont essayer de nous mettre toutes sortes de faussetés dans la tête ou toutes sortes d'impuretés. On n'en veut pas. On veut être saint puis appartenir entièrement à Dieu. Jésus veut et peut briser les chaînes de ceux qui sont sous l'emprise des esprits impurs. Parce que ça se peut qu'on soit chrétien puis qu'on ait des désirs impurs. Qu'on est encore là-dedans, qu'on pratique ces choses-là, sauf je veux pas qu'on reste là. Il veut nous délivrer. Il veut briser nos chaînes et nos liens. Il a l'autorité de briser nos chaînes et nos liens. Il peut nous délivrer, peu importe du péché qu'on est embarqué, il peut nous rendre libres. Dans Actes 10, 38, ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Jésus guérissait tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand on parle du mot « empire », on parle que cet empire-là, c'est que le diable exerce un contrôle rude sur quelqu'un. Il use de son pouvoir pour l'opprimer puis pour le tyranniser. Fait que l'ensemble de l'humanité, aux prises avec des esprits impurs, sont tourmentés, sont tyrannisés, ils vivent dans une vie tout croche. Ils n'ont pas le shalom de Dieu. Ils n'ont pas la paix de Dieu. Ça, c'est à cause des esprits impurs. Mais Jésus, il avait l'onction pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, y compris les chrétiens qui sont tombés et qui sont encore poignés. C'est ça l'espérance qu'on a aujourd'hui. Peu importe le péché que tu es pogné aujourd'hui, peu importe le péché qu'on est pogné, peu importe, parce que je suis un homme, moi tout, puis on a tout à combattre, le bon combat, puis garder la foi, saisir la vie éternelle à laquelle on était appelé. Puis on a à combattre, puis Dieu peut nous délivrer de n'importe quel problème qu'on a dans notre vie. Si on veut la victoire, on a juste à demander au Seigneur, puis le Seigneur, il a l'onction pour délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable, parce que Dieu est avec lui. Fait que je vais faire un appel pour ceux qui veulent vraiment que leur vie change, puis qui veulent être pardonnés pour être sauvés. La première chose que je vais faire, c'est de faire une prière pour ceux qui voudraient recevoir Jésus comme leur sauveur, pour être pardonnés, puis être purifiés, puis rentrer dans le chemin de la délivrance offerte par le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes pardonné de vos péchés, il y a une nouvelle vie qui commence, puis le Seigneur va vous accompagner dans votre marche, puis il va vous amener où ce qu'il veut vous emmener. Soyez attentifs à ce que Dieu va vous conduire. Mais là, je donne aussi l'occasion à ceux qui ont des liens et des chaînes dans leur vie, puis qui aimeraient recevoir une délivrance de la part du Seigneur. On va prier ensemble pour demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur qu'il enlève ça de nos vies, pour qu'on puisse être libre, puis vivre cette liberté-là que le Seigneur promet, afin qu'on reçoive ces rafraîchissements. Seigneur, on reconnaît qu'on est des pécheurs, qu'on vit dans un monde de pécheurs. On est attaqué, on est oppressé par l'ennemi avec toutes ses faussetés. On te demande pardon, puis on te demande une délivrance complète, Seigneur. Une délivrance comme tu le promets dans ta parole, tu veux nous rendre libres. On te demande de nous délivrer, puis de nous donner une pleine liberté de ces choses-là. Donne-nous aussi la puissance de ton Saint-Esprit puis le discernement pour combattre ces choses-là, puis de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Puis merci, Seigneur, de ta victoire que tu nous donnes par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.